Merci Patrick, bonjour à tous, je vous invite à ouvrir la Bible. Il n'est pas évident de savoir quoi dire à Olivier après la sortie. Olivier qui vient d'être confirmé comme ancien, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Félicitations. Bon, il n'a pas réussi un examen ou décroché un job, on ne peut pas dire bravo, ce n'est pas vraiment ça. Bonne chance, ben, on ne croit pas au hasard, c'est peut-être pas approprié non plus. Je pense que ce qu'il faudrait trouver comme formule à lui dire, c'est merci et je prie pour toi. Je pense que ce serait les meilleures choses qu'il puisse entendre de notre part. Merci parce qu'il a envie de nous servir et puis je prie pour toi parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu en toutes choses. Mon sujet aujourd'hui est la lumière du monde. La lumière du monde. Ce dimanche unique, j'ai pensé à un thème unique, la lumière du monde. Alors, qui est la lumière du monde? Pardon? Jésus. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Une grande déclaration de Jésus qui commence par « Je suis » et on doit prêter attention à cette déclaration de sa part. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Mais nous allons lire en l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, je vous invite à le trouver, premier évangile du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, et de voir un peu plus sur la lumière du monde. Je vais lire les versets 14 à 16 de Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Quand j'ai demandé qui est la lumière du monde, la personne qui a dit « nous ». Mais si on regarde bien ce verset, ce qui est choquant, surprenant, étonnant, c'est que Jésus, en regardant ses disciples, leur a dit « vous êtes la lumière du monde ». Jésus, on comprend, Jésus, le Fils incarné de Dieu, bien entendu, est la lumière du monde. On a tous besoin de lui pour sortir des ténèbres, pour avoir la vie. Mais nous, nous les chrétiens, nous sommes aussi la lumière du monde. Alors il n'a pas dit « vous êtes les lumières du monde ». Le choix de Dieu n'est pas de regrouper les personnes les plus intelligentes, les philosophes les plus savants, et dire « voilà, eux vont éclairer les autres par leur intelligence ». Non, ce n'est pas ça. Il nous a choisis et il dit que nous sommes la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, mais proche du monde. Visible dans le monde. Remarquez comment il parle de cette visibilité pour que nous soyons des canaux par lesquels la lumière de Dieu brille et se manifeste dans notre monde de ténèbres. Il va utiliser deux illustrations toutes simples pour montrer comment la lumière est censée être visible. La première image est d'une ville sur une montagne, et particulièrement la nuit. Si vous avez pris un bateau à la mer, la nuit, vous regardez et vous voyez que de noir. Mais à l'horizon, vous voyez là où il y a des villes. Pourquoi? Parce qu'il y a des lumières, n'est-ce pas? Cette lumière rend la ville visible. Et ceux qui voyageaient la nuit dans le pays pouvaient regarder sur la colline et voir les lampes, les lumières de la ville qui brillaient. Et ils disaient, c'est là, il y a une ville. On va marcher jusque-là. L'autre image qu'il prend, c'est une lampe qu'on allume et qu'on met sur son support pour éclairer tous. C'est la façon la plus logique d'éclairer une pièce, n'est-ce pas, d'avoir une lampe. Aujourd'hui, je sais que les abat-jours, parfois, rendent la pièce un peu plus sombre, cachent l'ampoule qu'il y a derrière. Mais à l'époque, on avait une lampe, et on la mettait aussi haut que possible, pour qu'on puisse voir, mieux voir dans la pièce. Ça exprime la visibilité de la lumière. On voulait que cette lumière soit visible. Et pareillement, Dieu veut que l'Église soit la manifestation visible de sa lumière pour un monde dans les ténèbres. Le monde a besoin de l'Église. On ne pense pas nécessairement souvent comme ça, n'est-ce pas? On se dit, on est bien entre nous, mais le monde a besoin de nous. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que parce que l'Église est la lumière du monde, elle a besoin de dirigeants qui seront exemplaires. Parce que l'Église est la lumière du monde, elle a besoin de dirigeants qui seront exemplaires. Exemplaires dans leur enseignement fidèle et exemplaires dans leur comportement chrétien. Les responsables n'ont pas besoin d'inventer l'Église ou de la définir. Elle existe déjà. L'Église est la lumière de Dieu. Mais nous ne pouvons pas conduire l'Église sans être comme elle. Ou pour le dire différemment, nous ne pouvons pas servir Christ sans être comme Christ. Donc, Olivier a un rôle à jouer. Aujourd'hui, le message te visera particulièrement, c'est logique. Le message te vise aujourd'hui. Olivier a un rôle à jouer. Lorsque je dis qu'il a un rôle à jouer, je prends l'image, pas du théâtre. Parce que lorsqu'on est au théâtre, on joue un rôle qui n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre personne, on joue quelque chose d'artificiel. Non, ce n'est pas ça. Mais je prends l'expression du sport. Quand on a un rôle à jouer, on a le numéro 10, on a le numéro 8, on a le numéro 9, c'est un rôle différent, mais nous devons jouer le rôle qui est le nôtre, que Dieu nous a accordé. Mais ce message ne vise pas Olivier tout seul. Parce que l'Église n'est pas un match de tennis. Vous savez la différence entre l'Église et un match de tennis? Nous ne venons pas comme des spectateurs pour voir deux personnes en train de faire leur service. Peut-être que vous avez pensé que c'était ça l'Église. On vient, on dit, ah oui, il fait bien. Puis, ah oui, puis lui, ah oui, c'était bien. Et puis on repart, et tout le monde est content. Non. L'Église, c'est plutôt comme une équipe de rugby. Moins violente, certainement, mais active. Chaque membre de l'Église participe à l'effort collectif. Et nous devons prendre cela à cœur. Et donc, vous devez être actif. Vous devez, pendant ces quelques moments, être un petit peu comme les joueurs en train d'écouter le coach avant de monter sur le terrain. Et la question qui devrait vous animer, c'est « qu'est-ce que je dois faire ? Quel rôle dois-je prendre ? Quelle activité ? Comment m'investir ? Comment encourager ? Comment prier ? Comment écouter afin de grandir en Christ ?» Et si nous voyons quelque chose de bien en Olivier, il y a beaucoup de qualités en Olivier, sa reconnaissance, sa louange de Dieu, son entrain, son enthousiasme pour le Seigneur. Ben, si nous voyons quelque chose de bien en Olivier, nous devons l'imiter. Aujourd'hui est un appel donc à tous, mais aussi à toi Olivier, que ton enseignement soit fidèle à la Bible et que ton comportement soit fidèle à Christ. Ce qu'on va faire, c'est écouter comment le thème de la lumière est développé en la lettre aux Éphésiens. Deux aspects, deux textes donc, en la lettre aux Éphésiens. Et je vous invite à le trouver. À la trouver, pardon. Éphésiens chapitre 3 d'abord. Et je vais lire au verset 8. Ici, ce n'est plus Jésus qui parle, mais c'est Paul, un écrivain, un apôtre du 1er siècle, qui écrit à l'Église qu'il a aidé à fonder. Et voici ce qu'il dit. Éphésiens, chapitre 3, verset 8. « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La lumière, ici, est la lumière de la connaissance de Christ. La lumière est opposée à l'ignorance des ténèbres. La lumière est la connaissance de la vérité. Vous voyez comment c'est décrit ici. Paul annonce Christ. Et il met en lumière, verset 9, comment se réalise le plan de Dieu. Afin que, en fait, dans l'Église locale, La sagesse de Dieu est manifestée par son œuvre, son plan est mis en œuvre. C'est un peu comme un bâtiment impressionnant. Quand vous passez devant un bâtiment, l'architecte a vraiment fait du travail, du bon travail, et ce bâtiment reflète son architecte. On dit, waouh, qui a dessiné ce bâtiment? Qui était l'architecte? Parce que logiquement, quand on voit le résultat, on se dit, qui a créé ce plan? Et pareillement, lorsque nous voyons le résultat qu'est l'Église, nous devrons nous interroger, qui est celui qui avait le plan? Un plan magnifique d'unir l'humanité, de nous transformer, de nous sauver et de faire de nous ses enfants, sa famille. La lumière, dit la Bible, a brillé, la lumière de Dieu a brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez que ce premier aspect de la lumière, c'est la connaissance. Alors ce que nous pouvons déjà dire à ce stade, c'est que nous n'aurions rien compris par nous-mêmes. Si on se mettait avec notre Bible, en train de réfléchir à nous-mêmes, voilà, essayer de comprendre, on ne comprendrait rien. C'est Dieu qui a agi pour nous donner la lumière. C'est Dieu qui nous a fait sortir de l'ignorance. Ce n'est pas notre propre intelligence qui nous a amenés là, n'est-ce pas? Mais aussi nous pouvons dire que Dieu nous a révélé tout ce qu'il voulait que nous comprenions. On n'a pas tout compris, on ne sait pas tout, mais on comprend assez, n'est-ce pas? On est capable de comprendre assez de la communication de Dieu pour dire, oui, je sais qui est Dieu et qui est son Fils Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Et je sais qui je suis et ce qu'il veut de moi. Ça, nous pouvons comprendre, même si nous ne comprenons évidemment pas encore tout. Mais nous saisissons à travers ces versets que la lumière est avant tout un message vrai sur Dieu. Écoutez comment Pierre, un autre disciple qui est devenu un écrivain de la Bible et un prédicateur de la parole, Pierre, dans une lettre, compare la parole des prophètes à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'au jour où l'étoile du matin se lève. Et là, je pense qu'il parle du Christ dans notre cœur. Mais il dit, la lampe brille dans un lieu obscur jusqu'au jour où l'étoile du matin se lève dans votre cœur. C'est en 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Ça veut dire que si on écoute bien attentivement les prophètes, on devrait savoir la vérité sur Dieu. On devrait attendre son Fils et voir comment Jésus correspond aux paroles prophétiques qui avaient été prononcées bien avant sa naissance. Alors en tant qu'Église, nous sommes la lumière du monde et nous devons prendre à cœur de transmettre la vérité sur Dieu autour de nous, aux gens qui nous entourent. Ça ne peut pas s'arrêter chez nous, vous voyez? Même si entre nous, on est bien. On a besoin d'être fortifié dans notre foi. On a besoin de se retrouver régulièrement pour nous encourager dans notre foi. Mais il y a quand même des gens autour de nous qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Pensons à eux, ayons à cœur de ne pas disparaître, de ne pas devenir invisible en tant que lumière, mais d'être visible parce que nous sommes proches des gens. Comme la lampe qui est visible dans la pièce ou la ville qui est visible sur la colline. Soyons prêts à répondre à ceux qui nous demandent pourquoi nous croyons aujourd'hui en Christ. Heureusement, il ne faut pas être grand et impressionnant pour parler de Dieu. À un moment, quelqu'un nous en a parlé, peut-être c'était un ami, un camarade de classe, un parent, quelqu'un de simple. Eh bien, soyons comme eux, fidèles à notre tâche, fidèle dans notre témoignage. Le premier aspect de la lumière, c'est la connaissance de Dieu. Mais l'autre aspect de la lumière se trouve en Éphésiens chapitre 5. Et je vous invite à suivre ma lecture en Éphésiens 5 à partir du verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous voyons ici que la lumière est la lumière d'un comportement chrétien. Ici, la lumière est opposée aux ténèbres du péché et le mode de vie que nous avions tous et que nous aurions tous par notre nature. Dieu est intervenu pour que nous soyons sauvés de cela. Il nous a récupérés, nous a sauvés, et puis nous a transformés. Et donc notre vie maintenant est lumière. Et ça veut dire que nous ne devons pas imiter les autres ou faire des compromis avec eux dans notre style de vie, nous adapter à leurs valeurs non chrétiennes, parce que nous ne sommes plus dans les ténèbres. L'Église a besoin plutôt de qualités chrétiennes à développer. Et ces qualités sont assimilées à des fruits. Bonté, justice et vérité. Est-ce que ma vie est remplie de ces choses? Est-ce qu'elles se produisent dans ma vie parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Et alors il y a le contraste. Après avoir évoqué la vie chrétienne avec ce fruit de la lumière, il va dire attention à ne pas trop nous intéresser à ce que fait notre entourage non chrétien. Ah, vous faites quoi, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Verset 12 dit, non, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Une vertu qui a été perdue dans notre société, il me semble, c'est la pudeur. La pudeur qui est définie comme une retenue, qui empêche de dire ce qui peut blesser la décence. Avant, on avait un voile sur ce qui est privé et intime. Maintenant, tout cela est manifesté. On parle de beaucoup de choses qui devraient rester dans le domaine privé. On n'est pas censé tout voir, ni tout dire. La pudeur est appropriée pour le chrétien. Il y a un réveil qui s'opère. Une personne qui vit une nouvelle vie, parce qu'il dit au verset 14, « Avant, il dormait, mais maintenant, il a été éclairé par Christ, qui est la lumière. » Ça, c'est le changement, n'est-ce pas? On est même réveillé d'entre les morts. Ce n'est pas juste le dimanche matin, quand on essaie de tirer un ado du lit, et il est fort endormi. Il doit se réveiller, lui qui dort. Mais c'est plutôt quelque chose de spirituel qui a lieu dans notre cœur. Nous étions morts, spirituellement parlant. Mais une fois que nous avons compris qui était Christ et qu'il voulait nous sauver et qu'il était mort à la croix pour nous, alors une nouvelle vie commence. Quel privilège d'être dans la lumière. Merci Seigneur pour Christ qui nous a éclairés, qui nous rend à la vie. Alors nous-mêmes, nous ne sommes pas exactement la lumière en nous-mêmes. Je pense que ce serait peut-être plus juste de dire que nous sommes un miroir qui reflète la lumière de Christ. Vous savez, comme les phares dans votre voiture, ceux qui ont déjà vu cela, il y a l'ampoule qui est la lumière, et le phare autour, c'est pas lumineux en soi, mais c'est un miroir, une surface qui reflète la lumière. Et pareillement, Jésus est notre ampoule, et nous sommes l'Église qui reflète la lumière de Christ au monde, qui brille là où il faut, qui expose dans un sens le comportement non chrétien autour de nous. Mais nous ne devons pas nous fier à nos capacités. Nous sommes simplement là pour refléter la lignée de Christ, la lumière de Christ. Alors revenons à la tâche d'un ancien. L'ancien a cette double responsabilité. Il doit enseigner correctement et il doit se comporter convenablement. Dans l'enseignement, il y a les présidences, il y a les prédications, mais aussi tout ce qui s'est fait dans la proximité. Moment de prière en haut avant le culte à 9h30, un moment de partage pour ceux qui veulent venir plus tôt et déjà prier pour notre rassemblement. Le groupe de maison que Olivier conduit en ouvrant la parole et en expliquant le sens de la Bible aux uns et aux autres. Les visites aussi. Dans les conversations, nous devons chercher à dire ce que Dieu nous a révélé. La vérité biblique peut être communiquée dans de simples conversations par notre foi. Alors Olivier cherche à dire ce qui correspond à la vérité biblique. Et pour le faire, étudie. Passe du temps à étudier, à sonder la Bible. Écoute attentivement la Bible. Et cherche des auteurs qui vont être une aide pour toi qui ont peut-être plus d'expertise ou plus de connaissances ou d'expérience pour te donner aussi des encouragements à approfondir la parole. Mais dans le comportement, la Bible en fait énumère toute une liste de qualités qu'un ancien doit avoir. Il doit être fidèle à sa femme. Il doit être sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier. La Bible précise qu'il doit être doux, pacifique et désintéressé. Il doit prendre soin de l'Église comme de sa propre famille. Il ne doit pas être aveuglé par l'orgueil et il doit avoir une bonne réputation parmi les non-chrétiens qui le connaissent. La barre est placée haut, n'est-ce pas? Et c'est typiquement chrétien que Dieu demande, que Christ demande, qu'on ait un haut degré de sainteté. Pourquoi? Revenons à notre texte de départ en Matthieu 5. Je vous donne le temps de le trouver, Matthieu 5. Là où on voyait que Jésus annonçait à ses disciples qu'ils étaient la lumière du monde, il va ensuite les mettre au défi sur leur façon de vivre. Regardez le verset 19. Celui donc qui violera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ce qu'il dit là, c'est qu'il doit y avoir une cohérence entre ce que nous enseignons aux autres et notre obéissance personnelle, notre mise en pratique individuelle. Et cette manière d'agir va alors être développée dans la suite du chapitre 5. Jésus va enseigner ce que nous devons être. Le bon comportement. Alors en fait, il y a deux façons de vivre. Et il y a un bon comportement minimal. On ne tue pas, on ne trompe pas sa femme, on aime nos amis, on s'entend bien avec nos amis. Et puis il y a un bon comportement maximal auquel Jésus en fait nous appelle tous. Il ne dit pas, du moment que vous êtes grosso modo en train de ne pas faire trop de dégâts, ça va. Il nous appelle à un degré de sainteté maximal. Il dit, ne te mets même pas en colère contre ton frère. Verset 22. Ne convoite pas une femme. Verset 28. Aime pas seulement tes amis, c'est normal, mais aime tes ennemis. Vous voyez comment il est en train de hausser le niveau de ses attentes, de nos attentes aussi par rapport à nous-mêmes. Tout cela pour dépasser le niveau ordinaire. Le verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi connaissaient la Bible, connaissaient les exigences de Dieu, faisaient de leur mieux pour, en tout cas en apparence, suivre Dieu. Mais il dit non, c'est pas assez. La Bible dit, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que nous avons pris cela à cœur? Il y a un problème et je suis attristé de voir des églises où l'enseignement n'est pas juste et le comportement non plus. Des promesses sont faites qui ne sont pas de la Bible. Tu vas réussir, tu vas devenir riche, tu vas avoir tout ce dont tu as rêvé. Et derrière ceux qui font ces belles promesses, souvent il y a de la manipulation. Paye ceci, donne cela. Et puis il y a des histoires de pognon. Et des gens, des adeptes, sont coupés de leur famille, de leur entourage. Je parle en ayant été averti par rapport à deux églises en Belgique qui sont en train d'avoir ce genre de pratique. Et il y en a d'autres, mais là je suis conscient de deux particulièrement. Et le pasteur les fait faire n'importe quoi. Dans certaines églises, ça ressemble plus à une série d'hypnose, une séance d'hypnose, qu'autre chose. Les gens tombent à la renverse, disent des choses, etc. Alors ces assemblées sont de mouvances protestantes, c'est ce qu'elles diraient. Mais c'est très loin de ce que Jésus a voulu, n'est-ce pas? Quand on lit ce que Jésus demande, c'est pas tout cela. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de critiquer les églises où les gens tapent dans les mains, ou lèvent les mains pour chanter. Et je peux comprendre qu'il y a des croyants qui prient en langue. Je ne suis pas en train de critiquer cela. Mais je parle d'églises où il y a des graves dérives morales. Et parfois, je dois avouer que les journalistes du monde ont plus d'intégrité que les églises qu'elles dénoncent. La vérité est mieux représentée par la presse qui dénonce que par une église qui ment. Où est la vérité ? La vérité doit rester au centre de notre église et la sainteté qui va avec cette vérité si nous sommes dans la lumière. Malheureusement, Jésus prévoyait qu'il y aurait ce type de cas de figure, que certains seront piétinés par les hommes. Regardez le verset 13. Quand le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Ce ne sont pas des chrétiens authentiques. Ces églises ne représentent plus Christ. Alors je vous préviens, afin que vous ne soyez pas trompés par ce type d'église, on est tous en train de voyager, peut-être que dans d'autres années, vous serez dans une autre église, mais cherchez après une église qui est bonne dans sa pratique et dans son enseignement, et attachez-vous à une telle église. Nous devons aussi veiller à interpeller notre monde par notre message. Nous devons faire attention de ne pas être si coupés du monde en disant, nous, on est dans la lumière, nous, on est le sel de la terre. En fait, on n'a plus grand-chose à leur dire parce qu'ils ne nous écoutent pas. Attention à ne pas devenir conforme au monde pour que finalement personne ne se rende compte qu'on est chrétien parce qu'on est juste comme eux. Là, le sel aurait perdu sa saveur, vous comprenez ? Il y a donc un avertissement derrière cette offre d'être la lumière du Seigneur, cette description des chrétiens, nous sommes la lumière. Nous devons faire attention à être visibles. Alors Olivier, prends au sérieux ton appel. Et que nous aussi, nous soyons unis dans cet élan pour le Seigneur, c'est une belle chose que Dieu nous appelle à vivre ensemble. Revenons à notre vision positive pour terminer. Quand l'Église est enseignée par des anciens exemplaires et que les anciens sont en train de vivre ce qu'ils enseignent, une fois que l'Église est unie en étant la lumière du monde, quel est le résultat ? Eh bien, Jésus a annoncé cela également, verset 16. « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Les gens devraient pouvoir dire, « Ces gens sont différents, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme ils étaient avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens n'appartiennent pas à notre société de la même manière que nous. Ces gens semblent avoir un Père différent du nôtre. Et ils devraient vouloir glorifier Dieu en voyant notre belle manière d'agir. D'autant plus si elle est cohérente avec notre confession de foi. Prions ensemble. Notre Père, comme Jésus est la lumière du monde, tu nous appelles à refléter Christ, ses qualités, sa bonté, sa sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pris des raccourcis, d'avoir pensé que c'est bon, on est sauvé, de ne pas avoir prêté attention à cette sanctification que tu veux voir chez tes enfants. Maintenant que nous sommes lumière, Seigneur, permets que nous puissions connaître de plus en plus ta vérité et connaître de plus en plus aussi le comportement qui convient à des enfants de lumière. Donne-nous chacun et chacune ton éclairage pour comprendre là où il y a encore des coins sombres dans notre vie, des domaines que nous n'avons pas soumis à ta volonté, des choses que tu veux changer en nous. Et Seigneur, permets que nous puissions être visibles auprès de notre société, qu'ils puissent te voir à travers nous et te chercher, te trouver, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Nous te remercions pour Jésus, nous te remercions pour la lumière qu'il a fait éclater dans notre cœur et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus morts, mais vivants. Amen.